Bienvenue à la 14e collaboration Polysécure et Cybercitoyen. Je suis avec Catherine et Sam. Comment allez-vous?
Ça va bien. Toi?
Ça va bien. Et toi?
Ça va bien aussi. Puis on va mettre le feu en partant. Maudit conspi. Voilà, ah? C'est fait. Non. On a allumé le feu. Maintenant que le feu est allumé, on va embarquer au sujet qui était prévu au podcast. On va commencer avec un projet de loi qui anime l'actualité. Beaucoup de gens en parlent. C'est une reprise de C2 qui est rendue maintenant C22. Pour être original, ils ont juste rajouté le même chiffre une deuxième fois. C'est quand même intéressant. Fait que Sam, je vais te laisser commencer à en parler.
C'est ça, le projet de loi C2, c'était un méga gros projet de loi là, qui englobait pas mal de sujets puis qui avait quand même fait sursauter et même crier beaucoup de gens. C'est un projet de loi qui donnait plus de pouvoir comme de fouilles électroniques, etc. aux forces de l'ordre, qui affectait aussi les frontières, qui donnait par exemple le droit de fouiller la poste. Là, il y avait aussi des erreurs, genre on pouvait ouvrir le courrier. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses un peu troublantes dans ce projet de loi-là? Là, avec C22, c'est un truc qui est quand même beaucoup plus ciblé. Puis sur certaines choses, c'est quand même mieux. Il y a des progrès. Il y a certaines parties là un peu qui étaient vraiment, disons, très dangereuses pour la vie privée qui ont été enlevées, mais d'autres qui sont quand même plus inquiétantes. Fait que dans les changements, la première chose, puis ça, c'est peut-être une chose qu'il va falloir surveiller, là, c'est que maintenant, par exemple, les forces de l'ordre se plaignent que, par exemple, s'ils veulent avoir de l'information, ben, ils vont faire une demande d'information à une compagnie où il faut qu'ils aillent devant un juge dire « Je veux savoir si, par exemple, Sam Harper a un compte chez tel fournisseur, on va en nommer. Fait que là, après ça, ils ont leur papier du juge, ils vont chez le fournisseur, ils disent « Nous voulons les affaires de Sam Harper. » Puis là, la compagnie dit « Ben, on n'a pas de Sam Harper dans nos affaires. » Fait que ça, zut, on a perdu plein de temps. Donc, dans le projet de loi, les forces de l'ordre vont pouvoir communiquer avec les entreprises puis dire « Est-ce que Sam Harper a un compte chez vous? » Puis là, la compagnie doit répondre oui ou non. Oui. Fait que là, ils peuvent aller après ça chercher un mandat là, chez un juge. Donc, est-ce que ça peut être abusé? Oui. Parce qu'on peut demander est-ce que tu as un compte de téléphone là? Est-ce que tu as un compte de club vidéo là? Est-ce que tu sais, on. Fait que tu peux quand même faire un profil juste en sachant où la personne a des comptes et tout ça. Fait que oui, il y a quand même quelque chose. Pour l'instant, c'est quand même pour seulement les services d'Internet et de télécommunications. Fait que le club vidéo, lui, serait pas obligé de le dire, par exemple. Puis les questions, ça doit être par oui ou par non. Il y a certaines balises, là. Faut que ce soit d'un doute raisonnable, mais ça, c'est, tu sais, la police va dire oui, j'ai un doute raisonnable. En tout cas, ça peut pas être des informations médicales. Fait que, tu sais, on peut pas demander comme une clinique, est-ce que quelqu'un est venu chez vous? Ça. Fait que ça, c'est une chose. Dans le projet de loi C2, il y avait la possibilité de demander les informations d'inscription d'un peu de n'importe qui. Puis ça prenait pas de mandat. Il y avait comme, en tout cas, les règles étaient vraiment lousses, là. Puis c'est ça qui a été resserré. Fait que maintenant, ils vont devoir obtenir l'avis d'un juge, mais c'est quand même avec moins de fardeau de preuve. Il faut juste dire, ben, on pense que cette personne-là pourrait faire un crime. Donc, dites-nous. Puis là, il y a comme des choses un peu de base, là, le nom, numéro de téléphone, par exemple, adresse de la personne. Là où.
Mais on parlait d'une letter report en entrée de jeu, là. Ça, genre, on pense que peut-être la personne aurait la potentialité de. On ressemble un peu dans un contexte.
Ben, c'est beaucoup pour le SCRS, puis eux, tout ce qu'ils font, c'est du minority report, là. C'est pas des gens qui enquêtent sur des crimes déjà faits, c'est des gens qui enquêtent sur des crimes qui vont arriver, là. Là où c'est un peu plus tannant. Puis là, c'est pas. Il parle de core providers en anglais, donc des fournisseurs centraux. Fait que on sait pas encore à qui ça va s'adapter, à qui ça va s'appliquer. Mais ils vont demander à ce que les entreprises gardent les métadonnées sur les communications pendant une période n'allant pas plus qu'un an. Donc, ça voudrait dire que si, par exemple, parce que là, ils se plaignent que, ben, on sait là que Sam Harper a un compte chez tel fournisseur, on arrive avec notre papier du juge, puis là, la compagnie dit, ben voilà, les deux dernières semaines, j'ai pas le reste, là, parce que, tu sais, je garde pas ça. Mais là, ils disent, ben, ça n'a pas d'allure, on n'a pas assez d'informations, là. Fait que là, il faudrait obliger les compagnies à garder ces informations-là, dont les informations de géolocalisation. Fait que, par exemple, vous promenez avec votre cellulaire, puis on sait sur quel tour là, ça a pigné, puis qu'on peut vous suivre à la trace un peu n'importe où. Mais là, les compagnies seraient obligées de garder cette information-là pendant un nombre X de mois. Là. Ça, c'est pas. Parce que c'est moins qu'un an, mais. Donc, il y a quand même là aussi un certain inquiétude.
Ouais, ben, je comprends l'inquiétude, mais pourtant, de ma connaissance de ce que c'est, cette information était déjà conservée par les fournisseurs cellulaires, si on prend ceux-là spécifiquement. Je sais pas quel besoin ils cherchent à combler avec ça. C'est quoi l'insatisfaction que les corps de police avaient sur ce que les fournisseurs avaient à leur disposition? Il y a peut-être quoi, genre un petit fournisseur cellulaire niche, là, que ça existe pas au Canada parce que c'est soit ça des gros ou c'est des brands minuscules des gros. Là. Tout le monde, ses enfants, c'est TELUS, Rogers, Bell, puis t'as couvert 99% du marché.
Je pourrais pas dire c'est quoi les motivations, mais là, ils veulent objets, puis c'est des métadonnées, c'est plus que juste la géolocalisation. C'est, oui, t'as la géolocalisation, mais t'as comme quel appareil a communiqué avec quel appareil, combien de temps ça a duré, pas le contenu du message, mais vraiment les données sur ces données-là. Ça, je pense pas que ces compagnies gardent ça si longtemps ouais. que ça, là.
Je comprends mieux la portée de ce que tu, ouais, parce que oui, ils vont être capables de localiser le numéro de téléphone à un endroit spécifique pendant un certain temps. Mais savoir quel appareil avec quel, c'est quoi les éléments complémentaires, ça, je sais pas. Puis ça semble répondre, puis ça fait du sens qu'ils aient rajouté ça. Est-ce qu'ils en ont réellement besoin? Ça, c'est un autre débat. Mais dans la façon dont tu le mentionnes, je comprends la justification, mettons, qui était en cantour, ça.
Il y a une des choses prévues dans la loi qui va être intéressante pour le quand je vais parler aux étudiants et étudiantes à Catherine, c'est que il y a comme un flou pour les corps policiers. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser l'OSINT? Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser des données publiques? Parce que c'est public, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir un ordre de la cour pour le consulter?
Ils ont déjà le droit d'acheter des données commerciales, par contre.
Ont-ils?
Je sais pas, mais là...
Aux États-Unis, oui, tu peux acheter d'un broker. Oui, mais
Canada, non. Au Canada, là.
Ouais. Au Canada.
Là, on ne parle pas du 5e amendement, là. C'est
on n'est pas encore le 51e état, Catherine. Je sais que tu as hâte, mais c'est pas encore.
Non!
Vous l'avez entendu ici en premier. Donc, mais c'est ça. Mais là, ils veulent comme rendre ça légal pour les forces de l'ordre d'utiliser les données de sources ouvertes, là, donc ce qui se trouve sur Internet et qui est public. Mais tu sais, ça ouvre la porte à certaines choses, parce que ça veut dire qu'ils peuvent, sans mandat, se mettre à aller regarder les comptes de réseaux sociaux, les posts Facebook, les ci puis les ça, alors qu'avant, peut-être qu'il y avait une certaine... je sais pas. En tout cas, il y avait un flou ouais. légal là-dessus.
Ben, oui, mais dans les faits, moi, comme personne, j'ai pas de présomption de vie privée quand je vais poster quelque chose public sur Facebook.
Non.
Je sais pas. Il y a peut-être une partie des gens qui ont encore cette présomption-là que c'est privé. Je pense qu'il faudrait dissiper cette, de façon urgente que c'est privé. Dans la mesure où c'est un poste public, là, des postes privés, des choses, et des groupes, des choses comme ça dans lesquelles c'est plus contrôlé, mais dans un contexte où je mets sur Twitter que j'exprime de la haine face à whatever, parce que c'est un lieu à ça d'ailleurs, X et Twitter. Après ça, je vois pas pourquoi la police serait limitée de voir cet accès-là, parce qu'elle est à la vue.
Oui.
C'est comme porter quelque chose sur le bord du trottoir est à la vue. Fait que ça, pour moi, j'ai un peu plus de misère. Pourquoi maintenant ils sont autorisés? Par ailleurs, d'acheter des données des brokers, ce qui a été fait débat aux États-Unis, puisque Catherine mentionnait, Ça, effectivement, là, j'ai un malaise assez grand d'ailleurs. Puis d'ailleurs, j'ai un malaise avec les brokers en général, là. En plus, qu'ils revendent ça, en plus, j'ai du second malaise.
Mais je dirais que ça. Il faudrait que je relise cette section-là, là, mais probablement que ça vous l'apporte aussi à utiliser les données de leak. Parce que les données de fuite, ça, tu sais. Mais c'est rendu public. Donc là, de ce que je comprends, en tout cas, il faudrait voir si ça s'applique à ces données.
C'est un résultat de la criminalité. Fait que ça a cette espèce de stigma étrange entre deux eaux parce que c'est du recel essentiellement, ces données-là. Fait que c'est toute l'espèce de zone grise légale que les données des leaks. C'est du recel, donc incidemment, à quelle mesure tu es capable de les utiliser légalement? Il y a de la tolérance, on en convient, mais la police n'a pas beaucoup d'espace. Ça veut que son dossier parcourt le processus judiciaire correctement ne se fasse pas débouter, bien, il faut qu'il soit autorisé à le faire là, en ce sens-là dans les leaks. Même si, comme tu dis, c'est dans les faits, c'est public, mais c'est quand même du recel là, au sens de la loi, c'est des données volées. Fait que, tu sais. Bref.
Also, quick recherche sur le côté, mais il semblerait que les policiers québécois peuvent acheter des données. C'est un legal gray zone qui n'est pas réglementé. Donc, si c'est commercialisé, puis c'est up for sale, puis que c'est dans le budget de l'enquête, ça peut être acheté.
Ouais, c'est la zone dans laquelle moi j'ai un inconfort. Là. C'est ce qui avait créé débat aux États-Unis, surtout parce que
oui, parce que ça sert à détourner un peu du besoin d'avoir un mandat de juge. T'as pas besoin du mandat si tu peux juste débloquer un budget, essentiellement.
Ouais, ça couvre un peu, comme tu mentionnes, ça court-circuite un peu le principe légal qui protège ça, mais en même temps. Les data brokers sont un problème en soi. Là. Ça n'attend qu'exploser cette affaire-là pour que ça fasse des dégâts monumentaux parce que je suis sûr que j'ai allumé un feu avec les conspires au début. On va continuer un peu. Les Epstein Files, dans les faits, sont des data brokers. On prend plus d'informations croustillantes sur tous ces gens-là qu'on pourrait trouver de le fun dans les Epstein Files, dans les faits. Là. Fait que je pense qu'on pourrait monter un dossier beaucoup plus fun avec ce qui est dans les data brokers de ces gens-là.
On parlait des données de santé qui étaient quand même exclues du projet de loi C-22, mais des données de santé, ça s'achète. Là. Chaque fois que quelqu'un Google ses symptômes de maladie ou fait partie d'un forum de discussion pour discuter d'un diagnostic qu'il y a eu, c'est des choses qui se retrouvent dans des bases de données éventuellement qui sont achetables. C'est vrai que cette base de données-là est tellement donnée qu'éventuellement, de désanonymiser le contenu puis de retrouver qui est la personne, c'est pas impossible. Tu sais, c'était le code postal,
ouais,
les habitudes, l'âge, l'éducation, le salaire, la marque de voiture, tu peux trianguler puis comme arriver à la conclusion de...
Ouais, le AI facilite ça, le LLM facilite ça de façon fois-mille. Ce que tu faisais à une époque dans ta carrière, de trianguler ça avec un certain nombre de points de données, maintenant, il en faut encore moins de points de données pour réussir à obtenir le résultat parce que le AI est capable d'arriver avec ce genre de choses-là. Tu vas faire un post anonyme dans un forum puis ils sont capables de t'identifier presque à 90% sur la façon que tu écris puis tout.
Oui, c'est ça. Il y avait un truc sur l'empreinte numérique, I guess, que de la façon que Google a décrit que selon la façon dont tu navigues, que tu écris tes phrases, que tu types, la vitesse, etc., ils pouvaient savoir t'étais qui même si t'étais pas connecté à rien. Ce qui est quand même creepy comme principe.
Nous sommes tous uniques. C'est ça que ça veut dire.
C'est beau, ça.
Oh.
Un petit flocon de neige.
Mais revenons à C22. Ce crochet-là qu'on est allé à peu près. Mais pour tout, clairement, on n'a pas pris notre médication au TDA aujourd'hui. Fait que ça va pas top. Là. On va essayer de garder le focus. Fait que Sam, s'il vous plaît.
Je pense que j'avais un peu fait le tour.
Il y avait pas d'autres éléments là-dessus que
pas pour l'instant, mais je pense que c'est un projet de loi qui vient d'être déposé. Là. C'est tout frais, tout chaud. Donc, il va y avoir des amendements, il va y avoir des débats, etc. Là, fait qu'on ça va être quelque chose qui va être à suivre parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est dans notre...
J'ai une question.
Oui.
Qu'est-ce qui arrive si on est un citoyen qui s'oppose au projet de loi puis qu'on veut... Voici notre désaccord sur des choses. Est-ce qu'il y a un processus pour les citoyens? de dire à leurs élus peut-être ou quelque chose, de faire comme « Hey, ça me semble. »
Tu peux appeler ton député. Ce serait probablement une des choses principales. Souvent, quand il y a la période un peu de d'évaluation comité, soit tu peux aussi sur le site web du Parlement écrire des commentaires puis écrire ton ce que tu as à dire. Seul temps, tu peux aussi même, là, je sais pas si la période est commencée ou pas, là, j'ai pas regardé le cheminement de ce projet de loi, mais tu peux écrire en mémoire, tu peux demander à parler aussi en comité, là, n'importe qui peut, t'sais, ils sont pas obligés de t'inviter, là, mais tu peux demander à parler. C'est sûr que, tu sais, pour le député, c'est tout le temps d'appeler au téléphone, là, c'est probablement le mieux. Un téléphone, ça vaut genre 100 courriels.
Right. Fait qu'on, on a au moins 100 auditeurs, 100 fois 100, ça fait beaucoup de messages.
Hein. Ça en fait plusieurs. Mais ça va être de voir un peu, parce que quand même, il y a certaines choses qui étaient comme franchement inquiétantes, surtout le fait de donner des données sans avoir besoin de mandat, ça a été enlevé. La partie là, sur fouiller dans le courrier des gens, tout ça, c'est quand même...
Oui, il me semble que le courrier, c'est... Je sais pas, que c'est un principe universel, que le courrier, c'est comme sacré, puis que comme personne n'a le droit d'aller fouiller dans ton courrier. Je trouve que... Je sais pas, il me semble que c'est une fibre importante de notre filet social, notre contrat un envers l'autre, que le courrier, c'est sacré. Fait que je suis un peu... Mais aussi, la notion de toutes ces données-là qui sont forcées...
C'est dans la loi, hein, le fait que le courrier a une valeur juridique particulière qui est protégée, puis le fait qu'il est, comme tu le mentionnes, atteigne cette valeur qui est sacrée au sens perçu, comme parce que mais ça fait depuis l'aube des temps que le courrier papier est protégé par des lois particulières qui surpassent beaucoup d'autres choses. Effectivement, c'est devenu dans les mœurs que ça soit au niveau que tu le mentionnes.
Mais je suis contente que je suis pas la seule qui tique un peu là-dessus. Il me semble qu'il y a comme une valeur sacrée au courrier papier, puis moi, ça me... C'est moins cyber, mais ça me... Je sais pas, ça me travaille. L'autre truc, c'est le fait de forcer les compagnies à conserver toutes ces données-là dans ma tête. Il y a comme un autre enjeu par rapport à des accès non autorisés. Je veux dire, c'est pas juste... Je m'inquiète pas juste que les forces aient l'ordre d'accès à ça. Je m'inquiète que d'autres acteurs de menace quelconque aient accès à cette information-là aussi, si elle est conservée puis qu'elle est là. T'as pas besoin de télécharger un logiciel d'espionnage sur le téléphone de la personne. Tu peux juste hacker le télécommunicateur puis comme accéder à l'information tranquille.
Voyons, ça arrivera jamais, ça. De quoi tu parles? Ça existe pas. On n'a aucun cas dans les médias dans les derniers mois dans lequel c'est arrivé, là.
Puis ça sera surtout pas, mettons, je sais pas, un employé désabusé, fâché, sous-payé qui prend une petite enveloppe pour donner son code d'accès à quelqu'un.
Je pense que c'est un scénario fiction, là, ce que tu fais là.
C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec, même.
Non, ever. Puis, c'est comme dire que tu sais, ils vont mettre un API qui va être facile à utiliser, puis qu'on va pas bourrer n'importe quoi dedans, puis qu'ils répondent par oui, par non, c'est pas grave. Ça arrivera pas, ça, qu'ils mettent un API public qui va être trop facile à questionner. Je suis sûr que ça arrivera pas. Bref. Tant qu'à parler de hack, on va basculer tranquillement vers justement le Homeland. Il y a eu un hack, ça a divulgué des informations qui sont assez croustillantes. Fait que Catherine, je te laisse partir avec ça.
Yes. Fait que ça commence par des activistes qui ont trouvé des informations. J'ai pas le détail nécessairement là-dessus, mais c'est par rapport à des projets de surveillance du Department of Homeland Security aux États-Unis. Pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus que ce pays-là s'en allait straight up dans une dystopie digne des meilleurs films de science-fiction, les trucs qui sont sortis dans la brèche sont relativement inquiétants. Puis là, faut savoir si ces données-là ont été données essentiellement à un organisme de transparence pour faire comme un lancement d'alerte essentiellement. Déjà, c'est beaucoup, tu sais, des gros projets, des gros budgets, des demandes un peu de soumission de projets. Puis là, on parlait d'environ 6000 entreprises qui avaient proposé des projets au département, là, de comme, j'ai une idée fantastique sur comment surveiller vos citoyens. Puis là, tu sais, ils proposent des projets. On parle de surveillance automatisée accrue dans les aéroports, là, des technologies qui permettraient d'aller au next level parce qu'on sait qu'il y a déjà quand même un certain niveau de surveillance dans les aéroports, mais là, vraiment, comme, beaucoup plus avancé. d'utiliser les téléphones comme scanner biométrique. Là, on sait ça, il y a peut-être déjà des idées que ça commence. On a déjà eu des ventes de pendant justement tout ce qui se passait avec ICE aux États-Unis, où est-ce que les agents ICE scannaient leur téléphone dans la face des manifestants en leur disant qu'ils capturaient leur biométrique. Donc, tu sais, ce projet-là semble être déjà abouti. Une des choses que moi, m'inquiétait particulièrement, dans mon top 3, là, ça c'est mon numéro 1, c'est une plateforme qui analyserait les appels 911. À l'échelle nationale, tu sais, il se passe jamais rien de privé puis de comme confidentiel ou sensible dans un appel 911. Fait qu'on peut clairement filer ça à un AI, aucun problème. Mais qui analyse un peu les appels pour créer une carte prédictive des incidents/crimes en mode Minority Report. Fait que ça, j'étais comme, qu'est-ce qui pourrait mal aller sur ce genre de projet-là? C'est une carte qui décide qu'il y a un quartier en particulier que le vendredi soir est sujet à beaucoup de crimes, puis qu'on va envoyer une escouade policière autour de telle adresse parce que il y a des patterns qui ont été détectés dans les appels 911. C'est beaucoup proche
des gros. Il y a aucune place pour le biais hein, là-dedans. C'est tout.
Oh non, non, c'est clair. C'est neutre, c'est oui. Pur, c'est genre exempt de tout biais. Là, il y a. Non, mais pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a le livre qui s'appelle Automating Inequalities, qui est excellent, qui élabore un peu sur comment est-ce que les biais de la société sont répliqués à travers, sont automatisés à travers nos outils d'IA. Mais c'est le concept aussi de Predictive Policing, qui est là, justement, on parlait de Minority Report en pré-enregistrement, puis c'est un peu, dans ma tête, si je me dis, on l'a déjà analysé dans un film. Ça serait quoi les enjeux moraux et éthiques de ce genre de technologie-là? Mais c'est un sentiment que j'ai beaucoup là, quand je regarde le gouvernement américain, que j'ai l'impression qu'ils écoutent des dystopies et sont comme, quelle bonne idée, en fait. Puis ils l'appliquent, fait que j'imagine que le prochain en liste, c'est Minority Report. Ce qui est inquiétant parmi les 6 000 entreprises, c'est qu'il y a des projets qui ont été partiellement retenus puis qui sont en processus d'avancement. Donc, ça démontre un peu l'intérêt de l'agence sur des projets futurs. Faut savoir que ça vient quand même dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de dollars, plusieurs milliards. Quand je dis plusieurs, c'est plus que 100 milliards de dollars qui ont été comme alloués en subvention pour tester ces magnifiques projets sociétaux-là. Donc, tu sais, clairement, c'est une volonté claire, là. C'est pas juste en mode grosse théorie, qu'est-ce qu'il y a out there? Il y a vraiment une intention concrète du gouvernement d'aller vers ce genre de choses-là. Bref, personnellement, ça m'inquiète. Vraiment, je suis comme... j'ai pas prévu faire de vacances aux États-Unis dans le futur rapproché, mais disons que ça me confirme que définitivement pas. J'ai pas le goût de passer par un aéroport dans un futur rapproché américain en ce moment-là. À la vue de ça. Commentaire, question, blague.
Sam, t'es étrangement silencieux.
Sam est tellement silencieux. J'ai tellement parlé ça avec full enthousiasme, puis je suis rencontré avec un mur de silence.
Ben non, mais... En fait, ces outils sont là, puis c'est clair que... Ils vont s'en servir, là. Je veux dire, tu peux automatiser la surveillance à grande échelle. Puis, tu sais, je veux dire, l'enjeu sécuritaire, on en a déjà parlé, tu sais, de vouloir avoir plus de caméras puis de la reconnaissance faciale automatique, par exemple, aux douanes, d'avoir des capacités de, tu sais, connaître qui est dans le char avant même que le char arrête quand il arrive au poste frontalier. On avait déjà parlé, puis c'est pas surprenant, tu sais, ouais, je sais pas. Je ne sais pas quoi dire de plus. Autre que oui, c'est
ça s'en vient. Ouais, ben, tu sais, puis pour prendre un peu l'analogie des
le pessimisme est dangereux.
Des films.
Ouais.
Je suis d'accord, tu sais, c'est pas inévitable. Puis tu sais, on a quand même vu que les gens peuvent se mobiliser, peuvent faire des choses. Minneapolis, c'est quand même un bon exemple de gens qui sont sortis dans la rue puis qui ont utilisé des trucs ultra high tech comme des sifflets pour comme freiner les actions de l'administration Trump. Fait que, quand je dis que ça me surprend pas, c'est pas non plus fataliste que ah on est foutu puis tu sais on s'en va vers la dictature puis qu'il y a rien à faire. Je pense pas. Je pense qu'on peut il y a toujours moyen comme de s'opposer puis de résister. On l'a vu, ces deux ils ont reculé. Tu sais il y a d'autres projets de loi des fois qui sont là puis à un moment donné il y a assez de gens qui se lèvent etc. Puis tu sais heureusement qu'il y a des leaks parce que je pense aussi qu'il faut pointer du doigt les compagnies qui proposent ce genre d'affaires-là. Tu sais, je pense que... Tu sais,
Définitivement, mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention beaucoup à pessimiste parce que c'est une stratégie de décourager les gens de juste s'aplatir puis de rien dire puis de rien faire parce qu'il est trop tard. Fait que, tu sais, c'est une des choses que faut peut-être qu'on fasse attention nous-mêmes là, quand on est sur le balado, on est toujours un peu en mode négatif, catastrophique, etc. Mais tu sais, je me rappelle, j'avais lu un livre qui s'appelait Hope in the Dark, puis ça parlait justement de l'importance de l'espoir, même quand tout semble un peu à la limite là, de l'échec complet total. Tu sais, il faut maintenir l'espoir parce que sans espoir, il y a pas de militants. Tu sais, il y a pas d'activistes qui partent en ligne de compte. Il y a pas de gens qui essayent. Puis aucun. Tu sais, c'est pas ça reviendra pas de base. Ça va pas se retourner de côté si personne essaie même de le faire. Tu sais, c'est sûr que ça se peut que ça réussisse pas des efforts, mais c'est sûr que ça réussisse pas si on fait pas d'efforts. Dans ma tête, tu sais, il y a plein de méthodes aussi d'activistes. Tu parlais des sifflets, mais tu sais, il y a des artistes qui se penchent beaucoup sur comment contrecarrer la technologie de reconnaissance faciale. C'est quand même cool, justement, de voir comment ils commencent à avoir des mouvements un peu fashion underground de maquillage, où est-ce que les gens vont justement camoufler leur visage avec des façons là, de maquiller ses yeux, son nez, etc., que dans le fond, la caméra peut pas t'attraper. J'avais vu des chandails, des t-shirts qui ont comme l'équivalent d'un QR code vraiment weird dessus. Mais qu'est-ce que ça fait, en fait, effectivement, c'est que ça fait bugger la caméra qui est en mode reconnaissance faciale, fait qu'elle n'arrive pas à voir qu'un humain parce qu'elle fait juste flipper au moment qu'elle scanne l'individu. Puis, tu sais, selon moi, si on rentre dans ce genre de terrain-là où est-ce que la technologie de surveillance commence à être trop oppressante puis que les gens stannent, d'après moi, tu sais, il y en a des solutions low-tech que les gens vont appliquer pour essayer de se défendre puis de se protéger par rapport à ça. Fait que, je pense que il faut juste continuer à surveiller ces projets-là, puis à lancer des alertes pour peut-être ouvrir la porte aux créatifs puis aux artistes justement qui veulent contourner ça, qui veulent trouver des solutions concrètes qu'on peut appliquer. Parce que on s'entend, le maquillage, là, c'est pas du gros matériel, là. C'est un crayon noir, c'est un eyeliner. Ton maquillage d'Halloween noir là, pour faire tes yeux de panda, t'es en business pour te faire ton maquillage anti-IA. Fait que c'est des moyens qui sont hyper accessibles.
Ouais, puis c'est ça, faut pas, on n'est pas fataliste, on fait juste relater ce qu'il y en a, puis il faut faire attention. C'est parce qu'on rit beaucoup aussi dans l'absolu dans ce qu'on fait. Fait que, tu sais, on en parle, mais on n'est pas défaitiste, là, on pense pas que ça va arrêter. Puis c'est toujours drôle, puis j'aime bien l'exemple de Sam, tu sais, la haute technologie des sifflets a réussi à contourner des choses comme ça. Et ce qui est fascinant dans le monde où on s'en va, c'est que le low-tech est d'une efficacité assez impressionnante face à toutes ces super technologies du futur qui vont révolutionner le monde, puis qui vont, puis finalement, un sifflet, c'est suffisant, du maquillage, c'est suffisant, ou d'autres manœuvres comme ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'espace à l'exploration, au hacking. Low-tech, c'est du low-tech hacking, vraiment old school. Un peu comme on parlait en pré-show d'ailleurs aussi, de ces affaires d'exploration qu'on faisait quand on était beaucoup plus jeunes, mais c'est un peu ça qui réémerge, puis je trouve ça très positif, ce mouvement-là, parce que ça me ramène à mes racines de jeunes pirates là, qui trouvaient ça drôle de tester le système. Ben on a encore cet espace-là, les jeunes et les gens ont encore cet espace-là qui, pour plusieurs, ont l'impression que c'était mort, puis ça ne l'est pas. Ce degré de résistance-là émerge par ça, puis moi je trouve ça très très fantastique. Puis je fais un croche aussi sur le fait que tout le side effect qui est utilisé, donc qui sert à l'imagination de ces gens-là, c'est toutes les dystopies. C'est pas tous les films de science-fiction avec des avenirs du futur qui sont intéressants. Je prends l'exemple d'un autre Star Trek ou une société qui est égalitaire, où on n'a plus besoin d'argent, où tout le monde a accès à ça. Pourquoi on n'aspire pas à ce genre de science-fiction-là? Puis pourquoi on aspire à Minority Report, puis ses surveillances, puis je comprends pas, on n'écoute On n'espère pas un bon film de science-fiction tant qu'à moi, là.
Right, le point de Hunger Games, c'est de nous avertir, pas d'être comme, ah, bonne idée. Mais, ouais.
Ouais, ben, c'est un peu l'espace de s'affaire, c'est l'espace d'imagination d'aller, d'explorer, puis justement, de mettre des avertissements, parce que, tu sais, si on regarde Black Mirror, l'essentiel de ce que la série veut montrer, c'est tous les dérapages potentiels, là, ces technologies qui sont en théorie pas si loin que ça de nous, et à quel point ça peut avoir des dommages importants sur la relation qu'on a avec les autres humains, parce qu'on malgré ce qu'on en parle, l'humain est relationnel, hein? c'est un peu ça qu'on était, un peu grégaire. Donc si on embarque dans ces aspirations là, ben on coupe tout ça, puis c'est une série très puissante sur les avertissements de ce qui s'en vient, là. Puis certaines des prédictions de Black Mirror sont déjà en train de se passer, ce qui est encore d'autant plus inquiétant. C'était pas un plan pour l'avenir, là. C'était un plan pour qu'on n'y aille pas. Pour reprendre ce que Catherine dit, c'est what? C'était pas le bon manuel, là.
C'était pas la bonne leçon. Non.
Ah. Vous arrêtez l'essentiel du message dans lequel ces séries-là ont été conçues, puis les créateurs les ont faites de ce sens-là. Cette nouvelle-là, est-ce qu'il y a d'autres éléments de dystopie que tu voudrais partager par rapport au fait que ce qu'on trouvait dans les documents du Homeland Security?
C'était vraiment mon top 3. C'était vraiment mon top 3 des trucs qui m'avaient accroché à travers ça. Honnêtement, tout le concept de Predictive AI me fascine et m'horrifie. J'aime vraiment pas le concept d'avoir des analyses de comportement prédictives. Puis je sais que même en cybersécurité, il y a beaucoup d'outils qui commencent à se vanter de pouvoir faire ça. Fait que, tu sais, même au niveau, mettons qu'on s'éloigne de la dystopie américaine, il y a la dystopie corporative également, où est-ce que, tu sais, à travers les logs, à travers les chats, à travers les comportements, un peu plus comme en mode méta, théoriquement, des systèmes de sécurité pourraient détecter qu'un employé est sur le point de devenir une menace interne. Puis moi, ça m'inquiète un peu, ce concept-là, parce que tant qu'à moi, tant que t'as pas fait le crime, t'es pas encore un criminel, puis c'est alarmant le concept de tout ce qui peut être capté pour nourrir ces modèles-là, pour éventuellement, puis tu sais, dans ma tête, t'as quand même une attente de vie privée, là, de ce que tu fais au travail. Je sais, je pense que si tes objectifs sont ici, si l'employeur a pas de raison de t'espionner, puis que les exfiltrations de données sont bloquées, il y a pas de raison d'analyser tes micro-comportements à la recherche de peut-être est-ce que cette personne-là va être une menace de façon très blanket, là, ou est-ce que 100% des employés sont surveillants en constante. Mais je le vois de plus en plus à des fournisseurs de technologies qui disent, qui vantent que c'est ce qui s'en vient, que leurs modèles s'en viennent, d'acheter leur licence.
C'est déjà là.
C'est déjà là. Je suis moins du côté acheteur. Fait que, c'est plus dans les conférences, etc., quand je vois des pitchs de vente sur ces trucs-là. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup. De même que les entreprises considèrent ajouter ce genre de technologie-là.
Il y en a déjà beaucoup. C'est le télétravail qui a apporté beaucoup l'explosion de ce marché-là. Parce que clairement, les employeurs ne savent pas gérer leurs employés, donc sont inquiets. Donc, ils vont mettre des choses pour les espionner comme des fous. Les détecteurs de mouvements de souris ou tout ce type de cet univers-là existe, puis qui est quand même assez étrange comme chose.
Ouais, c'est Teams qui nous dit si on est actif ou pas, là. Ça va. On n'a pas besoin d'en savoir plus sur ce qu'on fait derrière nous. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup, toutes les technologies. Mais tu sais, vraiment celles qui sont en mode prédictif, pas comme, ah, cet employé-là a cliqué, tu sais, il y a un log sur l'employé, il a spécifiquement cliqué puis exfiltré les données. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment la notion prédictive. Comme l'employé l'a pas encore fait. Puis il y a des alarmes qui sonnent de,
il a googlé comment est-ce que je peux exfiltrer les données.
Ah non, ça me sketchante un peu que tu sais, là, c'est dans le milieu corporatif, puis on va l'accepter dans le milieu corporatif, fait que après, ça va être le milieu plus policier, puis éventuellement, ça va être gouvernemental. Je sais pas, ça me.
Ben, le niveau prédictif aux États-Unis existe déjà au niveau policier. Dans plusieurs villes, ils ont plusieurs systèmes. On parlait de ces choses qui étaient là, mais dans les faits, ça existe déjà. C'est juste que c'est rebrandé sur d'autres façons. C'est comme ce que tu parles dans le niveau corporatif. Toi, ça donne l'impression qu'il y a des efforts et du renouveau là-dedans, quand dans le réel, ils ont juste rebrandé leurs choses avec du AI prédictif, ce qui était déjà existant il y a 5 ans. Juste le rebranding. Fait que c'est pas, il n'y a pas tant d'innovation réelle, mais il y a une meilleure acceptabilité, si on veut, de ces technologies dans les organisations. Puis pour avoir opéré un centre d'opération de cybersécurité, les choses qu'on voit à l'intérieur sont assez transparentes sur le comportement des utilisateurs. Et même avec ça, c'est très facile de pouvoir prédire les comportements d'un certain nombre de personnes malgré ces bassins-là, parce qu'on a une visibilité sur l'heure d'entrée, les actions qui sont faites, des choses comme ça. Fait qu'on peut déjà détecter des différences de patterns. Puis ça se faisait il y a 10 ans. La détection de changement de pattern de comment un employé, s'il ne rentre plus aux mêmes heures, ne démarre plus ses applications aux mêmes heures, fait des choses comme ça. On peut déjà commencer à déceler des comportements particuliers ou des choses comme ça. Fait que c'est déjà là.
Genre qu'il est en dépression puis qu'il se barre de partir en arrêt maladie, fait qu'on va le renvoyer en amont avant qu'il l'ait déclaré. Pour moi, c'est genre de slippery slope.
On la glisse déjà, bien malheureusement. Oui, la technologie ne fait pas ressortir le meilleur de l'humain. Là. On essaie de ne pas être fataliste, on va clore ça là. Mais ça ne fait pas ressortir le meilleur de l'humain. Puis c'est un rappel qu'on est des petites bébites de chair et d'os. Puis il faudrait arrêter de ces contrôles absolus. Puis que la technologie vienne dévier. L'objectif de la technologie est d'être un accélérateur à la productivité et à notre bien-être. Mais là, on est en train de faire un accélérateur au mal-être et pas à notre bonheur du tout. Là, c'est pas un accélérateur, ça devient un ralentisseur, surtout à mon sens. Fait, je pense qu'on a un wake-up call à avoir pour rebasculer vers un usage positif de la technologie. Puis les projets que tu mentionnais sont d'une atrocité sans nom sur la destruction de la valeur d'un qu'est-ce qu'un humain. En tant que ce qui représente. Là. Bref.
Mmh. Puis à défaut, il faut protéger le sacré de nos enveloppes papier, comme ça on va pouvoir planifier la révolution par la poste. Au pire.
Non, avec des courriers à cheval, avec un chose, avec un seau de cire.
Une armée de pigeons, c'est parti.
Une armée de pigeons, ça aussi, c'est une très bonne stratégie. De toute façon, c'est du low-tech, on en parle tantôt. Ce qui va laisser les technologies, c'est du low-tech. Retournez au low-tech, vous allez vous protéger contre chose. Puis justement, ça me fait glisser sur ma nouvelle qui est la troisième. Les combattants numériques. C'est un article qui est apparu il y a une semaine à peu près et qui fait état d'une compagnie, je crois, israélienne qui vend une technologie qui favorise la mobilisation des électeurs en envoyant des messages, en les portant à poser action. C'est un armement de la stratégie de communication des personnes qui se présentent, des partis politiques, ainsi de suite, qui les amènent à instrumentaliser l'influence sur les réseaux, l'engagement sur les réseaux sociaux pour créer un bruit beaucoup plus grand que ce qui en est vraiment, en envoyant des textos aux personnes pour les amener à aller agir sur une publication en faveur du député ou de personne qui se présente comme député dans une circonscription. Donc, ces éléments sont là. C'est en train de se déployer au Canada. Il y a des présentations qui sont faites. Donc, c'est en contexte. Ça, c'est un élément. Et déjà que je suis outré de celui-ci parce qu'on transforme la valeur de l'élection d'un choix libre des citoyens à... C'est justement une armée numérique, c'est-à-dire qu'on prend les sympathisants et on multiplie leurs efforts sans qu'eux-mêmes aient d'efforts à faire. Et c'est là où c'est la partie qui est traite, c'est que c'est pas mécanisé par des robots au sens où un robot qui vient liker. C'est que les plateformes ont relativement, est-ce qu'on fait des efforts pour bloquer? Là, c'est un geste humain, mais qui est poussé par la machine de forcer l'humain à poser une action qui est en faveur de la personne qui se présente dans le comté X. Pour assurer qu'il y a une mobilisation, donc du bruit, donc la visibilité, donc une capacité de ces gens-là de gagner l'élection. Mais ça, pour moi, ça enlève tout l'aspect du choix libre. Ça ne peut pas s'en rappeler tout ce que Cambridge Analytica avait fait dans des élections américaines où toutes ces données-là, il avait juste donné ce qu'on appelle les nudges, pousser des gens qui étaient un peu sur la frontière de sélectionner, juste les pousser du bord qui voulaient, comme ça, juste par des influences sur Facebook à l'époque. Donc, on est toujours dans cette facette-là où on est en train de prendre la démocratie comme un terrain de bataille, une guerre essentiellement, et non un débat d'idées et d'innovation pour la société. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
C'est essentiellement du astroturfing généré par l'humain. C'est du astroturfing. Je veux dire, la technique n'est pas nécessairement nouvelle. Je me rappelle quand j'étais une bébé végétarienne, puis je m'étais intéressée avec Peta, c'est ce qu'il faisait, là, il t'envoyait des stickers, des trucs, genre poste ça sur les réseaux sociaux, fais un tweet là-dessus, repartage, puis tu sais, il y avait des incitations, puis là, il y avait un board, puis là, tu gagnais des points dans le forum, parce que tu commets, tu sais, comme, ça a toujours existé d'une certaine façon, ce genre de truc-là, c'est juste, je pense qu'une différence entre crier les poulets sont nos amis, pas de la nourriture,
Ben notamment, puis c'est le degré chicken, d'industrialisation.
Chickens are friends, not nuggets, versus comme au niveau politique, il y a quand même un petit peu de nuance, il y a la différence, mais c'est le même principe essentiellement. Là, c'est de monter une communauté puis de les booster avec de la gamification probablement pour les encourager à poster des trucs particuliers.
La gamification, c'était que ce genre, tu pouvais comme gagner, je sais pas moi, une demi-heure avec le candidat, tu sais, tu vas aller pouvoir le rencontrer pour vrai ou des choses comme ça. Ben, tu sais, quand tu as partagé l'article, je trouvais que d'un, je trouve ça brillant. C'était comme une façon de contourner justement parce que d'acheter les bots puis de le faire par des bots, c'est plus difficile. En tout cas, quoique il y en a encore vraiment beaucoup, là. Mais ça permet de donner comme un genre de vernis authentique à. Parce que la personne qui va peser sur le bouton envoie ce tweet-là. Elle croit peut-être pas à ce, c'est pas elle qui dit, ah oui, c'est vrai, moi, je suis pas, c'est juste parce que l'algorithme a décidé à ce moment-là, c'est là que c'est important pour telle raison d'envoyer ce hashtag-là avec ce message-là, puis que, yay, c'est ça, s'il y a, je sais pas moi, 3000 personnes qui, un jeudi à la même heure, écrivent les mêmes choses, mais là, ça va se remettre dans le trending topic, les gens vont commencer à regarder, tu sais, comme, pour essayer de mousser des campagnes de c'est ça, pousser un narratif XY.
C'est de la propagande gamifiée.
Oui. C'est quand même brillant, mais ça fait aussi que, tu sais, avant, on pouvait dire, ah, si ça a l'air d'un bot, ça a l'air inauthentique. Maintenant, ce critère-là, même si c'est pas un bot, tu dis, ouais, c'est authentique, tu sais. Est-ce que ma tante qui poste une affaire weird, là, qui ressemble pas à ses posts d'habitude, c'est-tu parce que tout d'un coup, elle croit vraiment que c'est important? Le projet de loi ou parce qu'elle a installé une application et qu'elle a juste pesé sur le piton? En tout cas.
Il y a aussi le fait que l'article mentionnait qu'il fallait donner accès aux contacts et identifier amis et famille. Puis, excusez-moi, mais je n'ai pas donné mon consentement pour ça. Moi, ça m'inquiète que comme les amis, famille, comme sont. Fait que tu es flagué par la plateforme.
Ah, mais
que
ça,
tu veux pas échanger.
Plein d'entreprises qui font déjà ça. D'adresse puis numéro de téléphone, tu peux avoir un compte avec temps de recherche gratos si tu donnes accès à tes contacts.
Ils veulent tes contacts. Puis c'est pas sans rappeler l'époque. Puis c'est justement où là, Cambridge Analytica avait réussi à construire sa base de données. C'est que la confiance transitive était un énorme problème sur Facebook. Le fait que ton ami joue à Farmville fait que Farmville était capable d'aller domper tous tes contacts à toi en même temps parce que c'était ton ami, fait qu'il était capable de venir chercher plus loin que la portée initiale. Et ça a pris longtemps avant que Facebook intervienne pour bloquer cette trou dans les accès des données. Fait que c'est toujours comme ça. Fait que le problème est exact. C'est si tu as des amis qui sont plus négligents, ils vont t'entraîner avec eux dans cet univers-là. Et là, on parlait de l'humain grégaire, les liens, tout ça. Mais là, maintenant, il faut que tu fasses attention à quel ami que tu tiens parce qu'il peut t'entraîner, il peut te jeter en dessous de l'autobus sans que tu le saches. Fait que c'est comme, on est comme dans un drôle de on est vraiment dans un univers dystopique. J'aime pas ça comme société où on se dirige. C'est pas, j'aimerais ça anticiper que ce soit positif, là, mais il va falloir vraiment s'activer, là. Beaucoup.
Mais la logique aussi derrière l'application, puis tu sais, je regardais l'article du Devoir là-dessus, puis dans le fond, c'est le fondateur, était comme les utilisateurs ne sont prêts à consacrer que 20 secondes à une tâche et ça devient un peu complexe car ils doivent comprendre l'idée. Puis là, la solution, c'est on génère l'idée, un commentaire avec l'IA, comme ça, tout le monde a un commentaire unique à eux. C'est pas juste 40 fois le même message. Qui ont juste à copier-coller, mais c'est le fait que comme ça prend du temps puis c'est complexe parce qu'il faut comprendre l'idée. C'est l'idée même d'être engagé politiquement, c'est de comprendre l'idée avant de comme aller la crier sur les toits. Puis on est comme inquiète-toi pas avec ça, mon beau. Fais juste cliquer par copier-coller, ça va bien aller. Fais-nous confiance. Ouais. T'as pas besoin de comprendre. Ça m'inquiète. Le fait de d'avoir des systèmes pour bypasser essentiellement le raisonnement. Fait que tu démontres ton support, puis tout a été fait pour pas que t'aies pensé trop.
Ça, c'est dur, ça c'est forçant de penser, franchement.
Qu'est-ce qui est en jeu? La démocratie?
Whatever, c'est pas grave, là.
C'est pas grave.
C'est qui,
est-ce
qui
que c'est important qu'on peut être diverti par des slogans catchy sur Twitter à la base? C'est bien plus important.
On veut tous du slop AI en continu sur nos fauteuils flottants. On change des vêtements qui changent de couleur à volonté quand on veut. Là.
Ouais. C'est Wall-E, ça?
Oui, c'est Wall-E. Plein ça. C'est peut-être là qu'on s'en va dans les faits. Là, genre, toutes des personnes obèses sur des lits flottants qui ont un AI qui contrôle un vaisseau spatial, puis lui est juste content de. Il navigue dans whatever, il n'y a aucun objectif de le faire atterrir nulle part, il est juste là, il navigue. Puis nous, on fait juste comme manger, nous engraisse essentiellement. Si on embarque plus dans certaines œuvres dystopiques, disons sur le meilleur des mondes, par exemple, ou c'est.
Tu vois, c'est plus dans l'ordre de la Matrix, où est-ce qu'on nourrit la machine qui nous feed du slop? Parce que l'IA peut pas exister sans data. C'est un enjeu. J'avais lu un article d'un moment où est-ce qu'il y avait des inquiétudes par rapport aux grandes boîtes d'IA, comme quoi que on commençait à avoir miné toutes les données. Puis là, c'est dur d'avoir des données pas compromises parce que c'était des données un peu, c'est du slop. Fait que là, la machine peut pas se nourrir de slop. Fait que t'as besoin des humains qui génèrent plus de données, mais les humains génèrent plus leurs données parce qu'ils font du slop. Puis c'est quand même un enjeu. Fait qu'en fait, si on échange, on va s'éviter la dystopie complète parce que le système va juste collapser sur lui-même quand il va manger son propre slop trop souvent. Il aura plus.
C'est comme des problèmes de go sanguin. Puis c'est ça qui est très drôle parce que je pense qu'au bout de la 6e génération d'entraînement sur ses propres données, il devient complètement débile. Mais vraiment, là. Puis les modèles, ils montent. Là, ils montent en génération 1, 2, 3, puis t'arrives à 6. Là. Puis même à 5e, là, tu vois qu'il commence un peu à être un peu bizarre. 6, oublie ça, là. C'est pour ceux qui ont encore lu un peu de livres plus dans des plus classiques, comme Les Rois Maudits est un bel exemple de l'effet de la consanguinité chez les rois français. Là. Ben, c'est un bel exemple de ça. Fait qu'on se dirige vers cette espèce d'espace un peu weird avec des gens qui sont pas tout à fait aptes à avoir les postes qu'ils ont, disons. Mettons.
Mais. Tu penses même sur la reconnaissance faciale, tu sais, les datasets en ligne, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., que les données sont là, il y a de plus en plus d'influenceurs IA qui apparaissent. Fait que là, ces IA-là sont inclus dans les datasets de facial recognition. Puis, tu sais, éventuellement, tu sais, je veux dire, ça collapse sur soi-même, là, ce genre de truc-là. Fait que, juste avoir à suivre. Peut-être qu'en fait, la dystopie vers laquelle on s'enligne, c'est Dunes, où est-ce que l'IA est banni? Parce que.
Peut-être, mais. Ça va être intéressant de voir oui, c'est où on se dirige avec tout ça parce que dans la trajectoire qu'on a actuellement, l'IA ne nous remplacera pas. Il faut se calmer. Les gens qui ont peur, je pense que vous lisez trop de fiction parce qu'on n'est pas là du tout. Vraiment pas. C'est pas le slop que ma tante a fait qui va faire qu'on va balayer toute la société humaine comme ça. De un. Mais en même temps, comme tu le mentionnes, la machine pourrait juste exploser ou on a un peu perdu l'objectif du fonctionnement de ces IA-là aussi. En exemple, j'ai celui de la Suisse. La Suisse a développé un IA en source ouverte, libre d'accès et tout. Là. Il est entraîné sur un petit lot de données, mais l'objectif est utilitaire. Il n'est pas genre le jouet qui fait tout et que c'est drôle. Ils sont vraiment réduit la portée pour quelque chose qui va servir à l'État, qui va servir à des fonctions spécifiques. Je pense qu'on a perdu le focus. Puis je pense que les grands tech bros sur des TDA, parce qu'ils sont partis sur la mauvaise track, là. C'est déjà bien brillant puis coche après ça, là, essentiellement, à mon avis. Puis clairement, il y a eu un objet brillant chez vous aussi. Là.
Moi?
Ouais, le chien qui se promène en arrière de toi.
C'était pas, mais ça, c'est Roméo, il vient de sortir de sa chambre. Désolée, j'étais distraite par mon canin. J'en aurais dit, en fait, une fois que t'as l'avoir fini, qu'il y a un article super intéressant qui a été publié sur Média 404, justement, aujourd'hui, hier, en fait, au moment qu'on enregistrait, où est-ce que, justement, la critique de toute la recherche qui dit que l'IA va remplacer nos jobs, il y a beaucoup de fautes, si on veut, dans ces recherches-là, entre autres le fait que ça part toujours de l'assumption que les gens s'en servent bien puis s'en servent puis que ça, les résultats sont utilisables, alors que dans les faits, tu sais, en entreprise, ce qui se passe beaucoup, c'est que oui, tout le monde se sert de l'IA, mais les gens se servent pas nécessairement de ce qui ressort du dataset, parce que des fois, c'est comme tu testes, là, c'est de la boîte, fait que tu le fais toi-même. Puis aussi que quand on parle d'adoption de l'IA dans la population générale, ça tient un peu compte que il y a une grosse partie de ces cas-là que c'est carrément juste pour de la porno. C'est pour rien d'utile qui va remplacer notre job. C'est de la porno. Les gens font juste générer du contenu pornographique. Fait que oui, l'adoption est élevée, mais ça, c'est, je veux dire, je pense que je vais pas perdre ma job parce que comme quelqu'un sort de l'IA pour générer du deepfake porno de quelqu'un, là, c'est, if anything, je vais avoir plus de jobs en sécurité. Fait que, tu sais, comme les jobs seront pas remplacés par l'IA concrètement de ce qu'on voit dans les patterns, tu sais, comme, ça sert à justifier en ce moment des coupures de postes, mais je pense que concrètement, c'est de très courte durée, puis éventuellement, c'est les dirigeants d'entreprise qui motivent ces coupures-là vont se rendre compte que l'empereur est nul, là, puis que ça n'a aucune valeur.
Sont déjà en train de s'en rendre compte. Ouais, c'est déjà en train de se faire. Heureusement, là, ça n'aura pas pris trop de temps avant qu'ils découvrent ça. Puis je parlais avec un de mes amis aujourd'hui, justement, sur ce genre de choses-là, puis il dit la qualité des documents qu'il reçoit comme gestionnaire a diminué de façon drastique depuis le confinement notamment. Là, ça répond un peu à tes hypothèses, Catherine, de le fait que la COVID est quand même dommageable pour les capacités cognitives, puis ce qui est en train d'être démontré aussi d'ailleurs, puis scientifiquement. Parce que,
oui, ça donne l'effet d'une commotion cérébrale. Fait que, ça fait trois fois que tu as la COVID en 2 ans, tu as eu l'équivalent de quasiment trois commotions.
Fait que c'est un peu ça. Fait que ça, ils constatent une diminution de la capacité argumentaire des gens de façon très, très importante. Puis ça, c'est une chose au verbal, ça c'est déjà perceptible, cette capacité ou cette diminution-là. Et sur la qualité des livrables, ça aussi, c'est en chute libre. Parce que là, c'est... Là, ils disaient ça, c'est soit t'as genre un torchon qui dit rien de brillant ou t'as quelque chose de... un torchon poli qui est beau, mais qui dit pas plus de choses brillantes que le torchon à côté. On est au même niveau. Fait que c'est le même individu qui a prompté. C'est juste qu'il a prompté puis il est juste beau. Mais il est pas plus brillant, il a pas plus de contenu, il a pas plus de choses que l'individu à côté. Fait qu'on a un sérieux problème social. Puis je pense pas que l'IA va le résoudre. Il faudrait que l'humain réfléchisse avant de l'IA. L'humain ne réfléchit plus ou n'a jamais réfléchi aussi. Peut-être ça que ça démontre. Ou il a été trop soumis à la COVID puis genre, il y a eu trop de commotion puis il est juste comme il devrait mériter un bon repos puis revenir sur ses pieds. On est dans cet état-là. Fait, est-ce que ça me stresse? Non. Moi, je l'utilise bien. Pas souvent, mais j'utilise. Puis même à la limite, puis j'avais une conversation comme ça sur LinkedIn. Il y avait quelqu'un qui avait soulevé le débat des courriels qui s'écrivent avec du AI. Là. Il dit, moi, sérieux, ça m'insulte noir. Parce que quand j'écris un courriel, c'est à un humain que je l'écris. Puis si je reçois la réponse d'une machine, je discarte littéralement je prends même pas compte de ce que tu fais parce que t'as pas pris le temps d'écrire un message. Donc, ça vaut rien. Ce que t'as fait, ça a pas la valeur. C'est ça qui est étrange. Puis je pense que les gens sont écœurés aussi de cet aspect-là de, genre, ils se font traiter comme si c'était pas important de ça. Mais moi, c'est vraiment comme ça, je le reçois. Puis maintenant, je pose des gestes, c'est-à-dire j'ignore les courriels qui sont écrits comme ça, littéralement. Parce que j'ai d'autres choses à faire que de lire de la machine. Sérieux.
Mais il y a la notion de dette cognitive aussi là, qui était avec l'IA, où est-ce que pendant que tu n'apprends pas puis tu bypasses des étapes pour te faciliter la vie, éventuellement tu rentres dans un mur. Puis moi, ça m'inquiète beaucoup avec mes étudiants, personnellement. Là, où est-ce que tu sais, je le voyais entre le moment que j'ai commencé à travailler, l'IA, ça commençait, mais c'était pas comme. C'était pas omniprésent. Puis là, ben, tu sais, il y a clairement eu une session précise où est-ce que j'ai remarqué, là, le pivot était drastique. J'ai un groupe sur une quinzaine que je suis comme, oh, tu sais, les gars, genre, un petit peu trop d'IA, s'il vous plaît. On refait ça à, j'étais arrivée, puis 11 de mes équipes sur 12 avait clairement, tu sais, je regardais les métadonnées du document Word, puis le document de 30 pages avait été écrit en 35 secondes. Fait que j'ai, tu sais, comme clairement, ça a été généré par, ils ont même pas pris la peine de relire, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ils ont generate, download, puis ils m'ont envoyé ça, puis bon débarras. Puis tu sais, je comprends que c'est une session d'été, là, mais c'est comme, il y a personne qui est forcé de faire ce cours-là. Fait que, tu sais, si ça leur tentait pas, ils auraient juste pu abandonner le cours tranquillement. Mais je le vois, puis je vois que les étudiants rushent plus, que tu sais, ma matière, elle a pas changé, mais que je vois qu'il y a beaucoup plus d'anxiété au moment des examens, que la moyenne elle est affectée. J'ai eu à alléger mes examens parce que j'avais beaucoup trop de critiques tout d'un coup. Là, il y a eu une vague de critiques des étudiants que c'était trop difficile, là, où c'était un examen que il y a un an et demi, les étudiants avaient 85 de moyenne générale, puis c'était facile, puis il n'y a pas de problème. Le même examen, la même matière, la même chargée de cours. Là, tout d'un coup, c'était trop difficile, c'était trop long, il y avait trop de questions, c'était trop difficile d'avoir à détailler des réponses. Puis, tu sais, ce que je regarde qui a changé, c'est que les étudiants font plus ils trichent durant les travaux de session. Ils utilisent l'IA et ils prennent des notes avec l'IA. Ça, je le vois, là, parce que dans ma session Zoom, j'ai des petits note-taker IA qui sont ajoutés à ma session. Puis ça, l'impact, il est là. Les étudiants, ils prennent pas de notes, ils écoutent pas, puis comme, l'impact est là, au final, il y a une dette cognitive qui s'accumule. Fait que, tu sais, moi, ça m'inquiète beaucoup par rapport à ce genre de choses-là, parce que c'est, je le vois qu'il y a une dégradation, là, comme quand même assez constante à ce niveau-là. Puis, tu sais, Nicolas, t'enseignes toi aussi, là, fait que t'as probablement eu le même genre de réflexion toi aussi de ton côté, où est-ce que tu remarques peut-être des trucs comme ça, mais je le sens qu'il y a comme un, c'est le niveau. Oh,
c'est pas le même niveau, le niveau diminue. Oui. Moi, j'essaie d'amener un peu le débat ou la discussion, mais tu vois, je suis pas dans la même zone, ça, c'est moins fort, c'est moins intéressant. Puis je faisais même au travail, tu parles de dette cognitive, la prise de notes, c'est un aspect intéressant. Parce que d'un point de vue éducatif, l'usage du crayon et du mouvement physique de ta main a un effet sur ton cerveau. Et donc, favorise l'apprentissage. Puis, il y a des raisons pourquoi, quand on était jeune, on devait réécrire ce qui était au tableau. Parce que ça vient faire l'effet de t'aider à le mémoriser davantage. Quand j'ai commencé à prendre des notes à l'électronique, ma capacité de retenir ce qui se disait a chuté drastiquement. Parce que j'étais plus capable de capter. Fait que j'étais juste concentré à faire mes notes. Le temps que je sauve, parce que là, j'ai numérisé, son numéré, tout ça. Je le perds parce que je dois les relire parce que j'ai jamais imprimé dans ma tête le contenu. Donc, j'ai jamais été capable d'intégrer ce qui s'est passé. Puis, c'est juste comme je suis une méta-personne à regarder une situation que je suis juste témoin par-dessus. À versus, je suis dans la situation. Je prends mes notes. Puis, encore ce jour, je prends mes notes papier. J'en ai des tonnes. Puis, j'y écris une fois de temps en temps. Mais il demeure que je rentre dans mes dossiers, j'ai pas besoin de relire mes notes en aucun cas. Je m'en souviens, puis tu sais, je drive mes affaires, j'ai pas besoin de me fier parce que j'ai fait cet effort-là. J'ai fait juste l'effort de prendre des notes là. Ma vie est pas cassée, mon poignet est pas brisé, j'ai pas de crampes, ça va bien là. Tu sais, c'est vraiment très. Ça aussi, on est un peu encore dans du fatalisme. Mais en même temps. De l'autre côté, tu sais, je vois
que. Oui, mais non, la solution est facile. Il faut juste prendre nos notes, puis comme faire l'effort cognitif, puis lire le livre au complet à la place d'un résumé de ChatGPT. C'est comme, à la base, c'est la solution, elle est accessible, c'est de faire l'effort.
Mais faut marcher le chemin.
Mais tu sais, comme apprendre le cerveau, c'est un muscle, il faut.
Oui.
Je veux dire, si tu t'entraînes jamais, tu vas monter un escalier, tu vas être à bout de souffle. Versus si tu t'entraînes constamment, tu vas en monter 14.
Ouais, mais on va être sur des lits flottants, à quel on va avoir une espèce de chose qu'on va boire. Pourquoi on ferait de l'exercice? Voyons donc, qu'est-ce que ça sert? Pourquoi on ferait ça? Mais plus sérieusement, je trouve que dans le cas de l'éducation, par exemple, puis les centres d'éducation pour qui je travaille ont le même problème probablement que le tien, c'est. Il n'y a pas de volonté d'eux autres de dire OK, mais voici les règles, voici comment ça fonctionne, puis voici comment on va fonctionner. Et qui vont favoriser cette espèce de développement cognitif. Il n'y a plus ces espaces-là. Les écoles ne veulent même plus se battre pour ça, puis ils plient à moindre chose. Fait que C'est d'une tristesse que les institutions ne veulent pas se battre pour faire valoir la qualité de l'éducation. Et on est prêt à vendre des diplômes. On parlait d'autres choses en pré-show qui faisait sourciller Sam. Mais ça revient un peu au même contexte. On est en train de diluer ce chemin-là parce qu'on n'est pas capable. C'est pas dans tous les domaines, on s'entend. J'ai ma fille qui est à l'université et puis il n'y a pas d'espace à ce qu'elle puisse tricher de cette façon-là. Et même, elle est outrée parce qu'un de ses professeurs qui corrige les travaux avec ça, c'est de la merde. Fait que, ouais, j'aime bien ton chose parce que c'est la blague. Tous les étudiants le savent. Puis les commentaires qui sont faits sur les travaux sont toujours un peu off. C'est jamais la bonne chose. C'est vraiment ça. Fait que lui, c'est, tu vois, c'est le problème opposé dans lequel on fait.
Des profs qui faisaient juste pas lire les travaux. Ce qui a toujours existé, d'ailleurs, là, je me rappelle, moi aussi, à l'université, là, on avait un prof en particulier que le challenge, c'était de, on se challengeait à mettre une phrase absurde en plein milieu du travail, voir si il y avait le flaquer, puis comme non.
Tarte aux fraises. Moi, c'est oui, tarte aux fraises que je plantais dans mes textes.
Et
je
le fais clairement, le mode de correction, c'est la première ligne, la dernière ligne, puis comme, il passe à travers, puis...
Je le fais quand j'écris des grands textes. Généralement, je plante un tarte aux fraises quelque part pour savoir qui l'a lu et qui ne l'a pas lu. Puis tu le plantes pas
là. Jamais un jour vous travaillez avec Nicolas Louis, maintenant vous savez le secret. Oui, c'est
ça. Cherchez la tarte aux fraises dans mes textes, allez voir si.
Contrôle F, parce que... tarte aux fraises.
Oui, ils vont chercher. Oh, elle est où la tarte aux fraises? Dans le réel, celle-là, c'est la facile, là, mais quand les gens le savent pas, mais généralement, je cache un espèce d'absurdité un peu comme tu mentionnes. Qui me sert de canari pour détecter si les gens l'ont lu. Et donc, ensuite, de m'amuser en rencontre, de challenger ces personnes-là, sachant qu'ils ne l'ont probablement pas lu. Fait que là, tu amènes le débat ailleurs, mais encore là, évidemment, la paresse a toujours existé. Il y a des gens qui ont passé à travers le système, même s'ils ont été paresseux, puis ça donne des résultats qu'on connaît. Le ChatGPT fait juste amplifier, il donne la capacité à plus de gens de pas faire le travail le vrai travail.
Je pense que c'est pire que ça. ChatGPT essaie de nous convaincre que si on n'est pas lazy, on va être laissé derrière. C'est la partie du discours qui est moins le fun. Ouais. C'est qu'il y a un argumentaire qui est donné aux gens que c'est un must de l'utiliser, sans quoi ils vont... Alors que dans les faits, non, il y a souvent plus d'inconvénients que d'avantages. Puis comme c'est correct de résister à l'appât de ChatGPT et autres IA comme ça, là.
Ouais, mais c'est toujours, c'est quoi les cas d'utilisation qui sont utiles, les cas qui ne le sont pas. Faut l'expérimenter, là. Il demeure que les gens, faut qu'ils expérimentent ça, mais faut pas voir ça comme étant un absolu ou une atteinte ultime de quoi que ce soit. Ce n'est qu'un outil. Ça ne fait que prédire du texte ou des pixels ou peu importe ce que ça prédit. Et ça l'arrête là. Fait que c'est utile pour du polissage. Je parlais de slop, de beau slop. Oui, ça fait ça. Ça polie, mais ça n'a pas de substance. Ça n'a aucune substance. Puis, dans mon milieu professionnel, puis il y en a qui sont plus résistants que d'autres à l'usage du AI, ils vont détecter avec leurs collègues qui commencent à utiliser ça dans certains documents, dans certaines choses. Puis, ça, tu vois, ça irrite les gens qui font un effort réel de livrer quelque chose, se sentent. Puis, moi, dans mes courriels, c'est pour ça que je suis à ça mérite, parce que j'écris pas mes courriels avec du AI. J'écris à un humain, pour un humain. That's it. C'est une communication entre humains. Puis là, si on est en train de faire ça, ça va dans le fond. J'ai vu dans des organisations, c'est des AI qui se répondent.
Oui.
C'est capoté. Tu fais comme... Là, le but de la communication, hein, c'est deux humains qui s'échangent de l'information pour arriver à quelque chose. Bon, juste comme ça, là. Là, quand t'es deux machines qui font juste ping-pong, puis en plus, c'est insipide quand tu vois la conversation quand deux AI, ça devient vite perdre la substance, puis tu perds le contenu, puis tu t'amuses. Il y a des cas, puis quand je vois des textes qui sont flous, sont clairement écrits par du AI, parce que là, il manque de substance. Le AI n'a pas de substance. Là, t'as juste des textes avec des beaux mots, puis de l'alignement, puis finalement, tu cherches, ouais, mais puis j'en ai pas eu un aujourd'hui. Je dis, ouais, mais c'est quoi ton objectif, là? Parce que je comprends pas dans ton texte ce que tu essaies de dire, là. C'est beau? C'est un beau texte. Mais où tu vas aller avec ça, là, je comprends pas, là. Dans les faits, je sais où il veut s'en aller, là, puis je comprends les choses en arrière. mais il en fait pas un bon usage. Fait que, tu sais, là, je le taquine, je dis, ouais, je comprends pas où tu veux faire, là. C'est où tu t'en vas avec ça, là? C'est quoi ton plan? J'essaie de le forcer à devoir travailler pour de vrai dans l'absolu parce que je veux qu'il écrive c'est quoi son besoin. Je dis, c'est quoi ton objectif? Ça prend pas 30, ça prend pas 10 paragraphes, là. Ton objectif, ça s'écrit en deux lignes.
Mais tu vois, c'est le feeling d'un texte, d'un AI slop, c'est comme ça que j'avais décrit à mes étudiants. C'est comme un éternuement qui aboutit pas. Ça file comme ça. C'est comme, t'es comme, ça reste là. Comme, il y a jamais de atchou, là. Right?
C'est excellent. J'aurais pas mieux imaginé que ça de cette façon-là. C'est une belle, oui. Oui,
parce que tu sais, un projet de recherche, c'est comme 30 pages de, pis y a pas de atchou.
Ouais, yeah. mais c'est le problème à l'heure actuelle sur le marché du travail. C'est drôle parce que puis déclarer que l'autre l'utilise, c'est une insulte. Ça aussi c'est étrange parce que tu fais comme ouais, tu dis hey, non. Veux-tu que je te fasse la démonstration que tu utilises du AI ou tu veux réviser ton plaidoyer? Je pense que tu aurais peut-être révisé ton plaidoyer. Mais on est encore. C'est fascinant parce que ChatGPT, ça fait quand même plusieurs années que c'est là. On est encore au moment où les gens pensent qu'ils ont un chose secret là, qui les avantage par rapport aux autres. Moi, j'ai une petite affaire secret. Je te le dis pas, c'est quoi. Ah, dude, on sait que tu utilises AI. Calme-toi, là. C'est tout le monde le fait, là. Tout le monde est tout nu, là. Arrête.
On est fort sur les métaphores, mais je vois le visage de Sam, puis je pense qu'on a atteint. C'est l'heure.
Ouais, on a dépassé. Non, on est en train de s'amuser, on parle d'autre chose. De toute façon, on a allumé un feu au début. On va allumer un feu à la fin ou est-ce qu'on termine ça comme ça? Sam, je te laisse le mot de la fin.
Est-ce qu'on termine ça comme un éternuement qui aboutit pas?
Ben, je vais demander à Claude qu'est-ce qu'il en pense.
On verra, puis tu feras contre-vérifier par ChatGPT après, voir si ceci a une opinion divergente par rapport à ce que Claude dit, parce qu'on peut quand même vérifier. C'est cette discussion-là est brûlée de gaspiller de l'eau puis brûler de l'électricité pour rien. Là.
Mais c'est ça, je pensais aller installer l'application là, de militantisme virtuel sans avoir à réfléchir sur mon téléphone. Là, souvent, c'est ça que je vais faire avant de me coucher.
Tu passes tellement de temps en plus à te baser sur des opinions, Sam. Tu pourrais tellement être sauvé du temps, t'imagines?
Oui!
au-delà de ça, tu sais, on parle de déterminement non abouti. J'aimerais ça savoir c'est quoi ces opinions-là. Parce qu'ils doivent être effectivement des déterminements non aboutis, eux aussi, ces opinions-là. Ça doit être juste semi-convaincant, mais juste comme ça a l'air beau. Ça doit être un slop, ça aussi, là. Je serais très curieux de voir qu'est-ce qui sort de ces 10 opinions-là qui sont trop forçantes.
Écoute, dans un épisode futur, on s'arrange pour voir WhatsApp avec cette application-là, puis on regarde ça ressemble à quoi. Ouais. Les opinions qui sont...
Il y a un article qui va être publié, puis là, ça va être de dire aux gens... Repartager cet article-là avec tel commentaire, soit parce que c'était positif ou c'était négatif. Puis, tu sais, ça va être plus comme ça où c'est plus de créer un momentum puis d'avoir beaucoup de gens qui parlent de la même chose en même temps pour réussir justement à pouvoir influencer. Tu sais, il y a encore là, des journalistes qui regardent sur X, voir ce qui se passe puis qui pensent qu'on va en créer une nouvelle. Là. C'est un peu moins. Là. Il y a quelques années, c'était pas mal ça. Beaucoup de gens parlent de telle affaire. C'est comme. Mais c'est ça, si tu es capable de réussir à faire publier un article de même. Hey, beaucoup de gens semblent bien fâchés de la fermeture de la piscine de tel endroit. Ben, c'est ça.
Mais on le voit déjà. Tu sais, Alexis, c'est déjà encore une fois ce genre de trucs-là. C'est juste qu'au départ, les bots servaient à enflammer des vrais gens, puis là, ils payaient des influenceurs aussi. Mais je suis allée voir le site web pour le fun. Hein. C'est clairement tout généré par l'IA. Toutes les images, les humains, c'est clairement pas des humains. Là. C'est des images IA. J'adore. On devrait se pencher là-dessus. On devrait se pencher là-dessus pour une épisode future. Et aussi, pendant la conférence, auprès des jeunes là, qu'on a fait dans le contexte de Secure, il y a eu une demande spéciale de l'audience des ados que Nicolas Louis a witness. Ils ont demandé à ce qu'on fasse un épisode sur Twitch.
Oui, hey, c'est vrai, je pensais pas que tu allais leur sortir celle-là.
Ah oui?
OK. Oui.
Oui, 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 parce que, tu sais, comme pour connecter avec les jeunes, tu sais, j'ai mentionné mon passé de Twitch et de Stardew Valley qui a eu plus de... Je pensais qu'elle allait me trouver un peu cringe, mais ils ont vraiment embarqué beaucoup sur le fait que je joue à Stardew Valley. Apparemment que c'est encore cool, Stardew Valley. Mais il y a un jeune qui nous a challengé de pourquoi est-ce qu'on n'est plus sur Twitch? Fait qu'écoutez.
Il y a même des jeunes qui sont venus te voir sur ton jeu pour avoir des conseils. C'est vraiment malade. J'adore ça. Ça a été vraiment chouette comme expérience, ce contact-là avec les jeunes. Puis, la réaction, les questions qui ont été posées, des fois, ils sont un peu les jeunes. Mais il y a plusieurs espaces, justement, comme Twitch, ça va être drôle. Fait que Sam, la balle est dans ton camp de nous autoriser de commencer à faire ça sur Twitch.
Okay. Je lance ça dans l'univers. C'est peut-être une option.
D'accord.
Dis ça, moi, je dis rien.
Ah, mais ça serait pas différent d'aujourd'hui. C'est juste qu'on aurait peut-être des chats sur le côté ou absolument pas parce qu'on aurait deux viewers des premières fois qu'on enregistre.
On aurait deux techno, puis ça serait tout. Là. Ça serait, dans l'absolu, ça serait drôle, mais bref. C'est comme c'est fait enregistrer, mais maintenant, c'est un testament pour l'avenir. Donc, on va faire ça, puis on va arriver avec du Twitch éventuel. Go! Bon, sur ça, avant que Sam tombe endormi dans notre visage, ça somme sur son micro, on va terminer là. Merci, c'est toujours très drôle, puis finalement, on finit toujours par déborder sur plein de folies. J'ai toujours énormément de plaisir, puis on se dit à la prochaine.
À la prochaine!